Les 80 ans de la Libération, vous savez que sur Radio Prévert, nous sommes en partenariat avec le Souvenir français de la Flèche, représenté ici dans ce studio par Michel Baudet. Bonjour Michel.
Bonjour Jocelyn.
Ravi de vous retrouver pour un moment de partage. C'est ainsi que vous l'avez imaginé, ce cycle-là, où nous rencontrons différentes personnalités. Et aujourd'hui, grâce à vous, on va échanger avec une sommité de l'histoire dans le pays fléchois.
Oui, avec Daniel Potron, je suis ravie qu'il ait accepté de venir nous parler. Alors, peut-être pas de sa mémoire d'enfant pour la guerre, comme les autres personnes que nous avons déjà eues, mais pour nous parler de la libération de la ville de La Flèche, parce qu'il est incollable sur le sujet. Et voilà, il y avait que lui qui pouvait nous parler de ça.
Il est modeste et je sens qu'il va nous rectifier un peu le propos introductif. Bonjour Daniel Potron.
Bonjour. Oui, je pense pas que je sois une sommité et... Ma mémoire est parfois quand même défaillante. Ça lui arrive.
Jusqu'ici, on n'a pas eu, nous, à nous plaindre de votre mémoire. Donc, jusqu'ici, ça va.
Absolument.
Alors, Daniel Potron, alors on vit ces 80 ans de façon, on va dire, exceptionnelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des chefs d'État du monde entier qui sont venus en France. Et sur différents territoires, il y a des événements qui se déroulent, même dans le pays fléchois. Notamment, le souvenir français n'est pas innocent par rapport à ça. Et qu'est-ce que ça vous dit, première réaction par rapport à ça, cette ferveur qui accompagne ces 80 ans?
Oui, la ferveur, c'est bien. Je pense quand même qu'il y a eu beaucoup de battages, des choses qui ne me plaisent pas beaucoup, comme des reconstitutions. J'aime pas les reconstitutions.
Pourquoi?
Oh, bah parce que c'est pas du théâtre. Donc les événements en soi sont suffisants sans qu'on en fasse des imitations par la suite. Enfin, c'est mon opinion.
Faut pas en rajouter.
Faut pas en rajouter, voilà.
D'accord. Michel ?
Bah, c'est vrai que les cérémonies ont été grandioses. Après, il y a toujours le problème de la limite, effectivement, dans les cérémonies. Jusqu'où doit-on aller ? Il y a peut-être des moments, effectivement, où le simple fait de se recueillir à un endroit où il y a eu beaucoup de morts, ça suffit pour faire une célébration.
Et il ne faut pas faire croire qu'on est là en plein cinéma, ce n'est pas du cinéma.
C'est pas du cinéma, exactement.
La libération de la ville de La Flèche, tout un programme avec vous, Daniel Potron, vous qui vous intéressez au territoire, qui allait chercher les moindres documents, qui interrogeait aussi. Et là, je suis en train de vous poser en fait la question de la méthodologie qui est la vôtre depuis des années. Comment arrivez-vous à faire ce travail d'orfèvre, de chirurgie? Non, là, ça, vous allez me dire que j'en rajoute. La méthodologie.
Bah pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale à La Flèche, j'ai quand même utilisé beaucoup les témoignages parce que j'ai dû voir interviewer ou correspondre avec environ 240 personnes. Et puis je suis allé naturellement aux archives départementales au Mans et aux archives dans les archives communales, bien entendu.
Il y a plein d'informations à découvrir.
Oui. Oui et non, parce que quand j'ai fait ça, c'était quand même dans les années 80, il y avait un gros problème, c'est que toutes les archives correspondant à la collaboration et à l'épuration n'étaient encore pas accessibles au public. Donc j'ai obtenu des renseignements par voie indirecte, on va dire.
Oui, vous avez votre réseau.
Voilà, une sorte de réseau. Et petit le réseau.
Et votre travail parle pour vous. Ouais. Vous n'êtes pas le premier venu. C'est qu'on vous fait confiance sur ce que vous avez déjà produit.
Je l'espère.
Et vous, comment avez-vous pu œuvrer à travers la foultitude de documents que vous avez obtenus? Et comment vous avez dit, tiens, ça va être le fil conducteur de cette séquence que je vais produire?
Oh, j'avais pas vraiment de fil conducteur, hein. J'ai commencé par entasser les informations, puis après seulement j'ai vu comment je pouvais les répartir en différents chapitres en fait. J'ai fait des tas de feuilles séparées.
Et comment on séquence alors?
Comment on séquence? Ça c'est une question personnelle, hein. Suivant, c'est un peu au feeling hein, quand même. Je suis pas historien de nature, hein. De nature, je suis physicien et même chimiste. L'histoire, c'est mon dada. C'est autre chose.
D'accord.
Voilà.
Ok. Donc là, en fait, c'est ce que vous aimez. Et moi, je pense, Michel va peut-être être du même avis que moi, qu'on ne fait bien que ce qu'on aime vraiment.
Ah, ça c'est un adage qui a souvent été vérifié.
Non, puis j'aime bien cette période de la Seconde Guerre mondiale parce que je l'ai vécu en étant jeune et je l'ai vécu dans une ville, Vitry-François, dans la Marne, pour ne pas la nommer, où il y a eu quand même des événements majeurs qui m'ont marqué à vie, disons.
C'est-à-dire ?
Ben, essentiellement les bombardements. La maison de mes parents a été démoli 3 fois par les bombardements. C'était pas la même à chaque fois, bien sûr. Et j'ai un souvenir du plus grand bombardement qu'il y a eu à La Flèche, qui a été fait par des Américains, d'ailleurs, et où il y a eu plus d'une centaine de morts. Et tout le quartier dans lequel j'habitais a été pilonné autour par les bombes, et nous, on était des miraculés, au centre. Donc ça m'est resté.
Est-ce qu'il y a une sorte de comparaison naturel que vous faites entre ce que vous évoquez là, vos souvenirs personnels vécus ailleurs, et ce que la ville de La Flèche, le territoire fléchois, a pu vivre à cette époque-là?
Oui, mais assez lointain, parce que finalement, la ville de La Flèche, par rapport à la ville dans laquelle j'ai habité, était assez calme. Il y avait par exemple pas de problème, il n'y avait pas beaucoup de juifs à La Flèche, donc il n'y avait pas le problème de l'antisémitisme qui existait à Vitry-François. Il n'y a pas eu de grands bombardements à La Flèche, c'est des bombardements essentiellement sur le quartier de la gare et qui n'ont pas fait de victimes ou très peu de victimes. Donc ce n'était pas tout à fait la même chose. Mais...
Donc il y a une gradation, il y a une évaluation à faire pour ne pas trop mélanger, se dire tiens, ça a été la même chose partout. Loin de là.
Ah non, je pense que dans chaque territoire, il y a eu des spécificités. Voilà, comme on en parle souvent. Moi, j'en parle souvent parce que c'est quelque chose qui m'a touché. C'était le massacre à Maillé, on en a déjà parlé.
Tout à fait.
Qui est passé complètement inaperçu parce que c'était le jour de la libération de la ville de Paris. Et voilà, donc il y a eu des choses monstrueuses qui se sont passées partout. Et on n'a pas forcément eu connaissance de tout, justement. Et peut-être que, justement, quand on fait appel à des témoignages de gens qui ont vécu sur les territoires, c'est là qu'on peut apprendre des choses.
Daniel Potron, vous dites que vous avez rencontré plus de 200 personnes.
Oui.
Et qu'est-ce qui revient dans ces témoignages que vous avez pu recueillir sur les événements du côté de La Flèche, même si vous avez pu dire que ça n'a pas eu le même degré d'horreur, de tragédie rencontrée ailleurs?
Ce qui est ressorti surtout, c'est que je ne pensais pas que la mémoire était aussi vive. À l'époque où j'ai fait ça, c'est le début des années 90. Et j'ai été étonné de voir comme les gens étaient encore répartis en 2 camps, avec certains qui étaient pour les résistants, et d'autres qui disaient « Oh ben, c'est un camp qu'a gagné, mais c'est tout à fait par hasard ». Enfin, c'était très... J'ai eu des réactions très bizarres. Je ne les ai pas notées, bien sûr, dans mon livre. Mais j'ai été frappé, en tous les cas, par la virulence des propos, alors que ça se passait quand même plusieurs décennies après, des événements.
Waouh, 1990
ouais.
Et là, on parle de...
On parle de 1940.
Qu'est-ce que ça dit, cette polarisation? Parce que c'est ça, polarisation.
Oui, mais je pense qu'aujourd'hui encore, la Seconde Guerre mondiale, ça reste un point de repère, même parmi les hommes politiques, parmi certains hommes politiques.
De se dire...
Qui ont vu leur carrière, d'ailleurs, naître à la suite de la libération.
Vous pensez à qui?
Je sais pas, je pense à des gens qui sont morts maintenant, comme Chaban-Delmas, il y en a bien d'autres, comme Debray. Oui.
Et vous dites que c'est une période où, même en 90, les gens étaient polarisés. Chacun se disait, on a gagné, la résistance a fait ce qu'elle devait faire. Et d'autres qui relativisaient. Et quels arguments, finalement, c'est de dire, qu'on aurait pu composer avec...
Leurs arguments, c'est que les résistants, c'était pas les résistants fléchois. La plupart, c'était pas des vrais résistants. Que mettre une croix de Lorraine quelque part, c'était plus un amusement, surtout quand ça venait de la part de jeunes, qu'un véritable acte de résistance. Même pour l'acte des cheminots fléchois dont on va parler dans quelques instants, vous avez encore des gens aujourd'hui qui m'ont dit qu'ils n'auraient pas dû faire ça, il aurait pu y avoir des représailles. Et, bah oui, il peut toujours y avoir des représailles.
Justement.
Quand on commet un acte contre les Allemands.
Justement, parlons-en, Daniel Potron, acte de résistance des cheminots fléchois,
oui.
Le contexte.
Alors le contexte, d'abord on peut dire qu'à partir du débarquement allié du 6 juin 1944, les opérations aériennes se sont multipliées à la Flèche et dans les environs. Bon, il s'agissait de bombardements de faible amplitude et surtout de mitraillage qui visait évidemment principalement les liaisons ferroviaires et les liaisons routières. Il y avait les avions qui arrivaient en général du sud parce qu'ils étaient cachés par la forêt. Ils arrivaient au niveau de la ligne de chemin de fer et là, ils prenaient la ligne en enfilade ou les routes voisines. Mais par chance, il n'y a jamais eu de... C'était surtout des dégâts matériels, il n'y a pas eu beaucoup de victimes. Et ce qui a déclenché vraiment le départ des Allemands, c'est l'acte commis par les cheminots Lucien Chartier et André Mauguedet. Mais en fait, les Allemands, ils étaient déjà. Cet acte a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 août. Mais les Allemands étaient déjà un peu sur le départ. Ils étaient extrêmement nerveux dès la journée du 7 août, en particulier à la commandante Tour, qui se trouvait sur la place de la Libération. Ils avaient commencé à amener des camions et à charger leurs archives ou à les brûler. Donc, ils étaient sur le départ. Mais ce qui a déclenché leur départ, c'est donc cet attentat. Alors, ces cheminots, ils avaient entendu dire qu'il allait arriver à la Flèche un convoi, enfin, un ensemble de 6 convois qui transportaient des hommes et du matériel et qui devaient venir de Clé à la Flèche. Alors, pourquoi cette petite ligne? C'est parce que les autres lignes n'existaient plus, elles avaient été bombardées, il n'y avait plus de liaison la Flèche-Angers, il n'y avait plus de liaison la Flèche-Aubigné, donc il restait que la liaison la Flèche-Saumur. Donc ces deux cheminots, ils sont allés dans le secteur du Zoo, entre ce qu'on appelle, je vais être plus technique, le pont de 4 mètres et le pont de la Cour au Roi. Ils ont...
C'est précis.
Ah oui, là, très très précis.
Voilà, ils ont enlevé un rail de 11 mètres de long, qu'ils ont simplement posé sur le côté. Alors, ils ont choisi cet endroit-là, pourquoi? Parce que c'est un endroit qui était relativement éloigné des habitations, donc il y avait moins de risques pour les habitants. C'était un endroit qui était, où la voie ferrée était en surplomb, et où le train n'allait pas très vite, parce qu'il y avait une côte à 10%, donc tous les trains ralentissaient à ce moment-là. Bon, le convoi est arrivé, le premier convoi, qui était tracté par une... locomotive très célèbre, c'est la Pacific 231, qui a été chantée par Arthur Honegger. Et donc la machine de tête, la locomotive, s'est couchée complètement dans le fossé et elle a entraîné les 6 premiers wagons. Donc à ce moment-là, les Allemands, eh bien, ils sont repartis avec ce qui restait de... qui n'avait pas été touché, parce qu'il faut dire que c'était un convoi avec une locomotive devant, une locomotive derrière. Donc la locomotive de queue est devenue la locomotive de tête pour repartir vers Cré. Donc il s'était évidemment caché, les deux cheminots. En fait, le premier fléchois qui est arrivé sur les lieux, c'est un policier, c'était Georges Landais. Et il a discuté avec les Allemands qui ne lui ont rien fait, sans doute parce qu'il avait l'uniforme. Donc pour les Allemands, c'était quelqu'un de réglo, si on veut dire... ça aurait été un civil, quelqu'un en tenue civile, ça aurait peut-être été différent. Et même Georges Landais a raconté sa rencontre avec les Allemands qui lui ont même payé un coup à boire.
Ah oui,
oui.
Parce que...
Ah ben je sais pas, parce qu'il devait boire comme ça. Alors ça a vraiment causé la panique chez les Allemands, oui, en occupation à la Flèche, qui ont dû penser qu'il y avait... d'importants groupes de résistants dans la région.
Parce que jusque-là, ils n'avaient pas eu affaire à une contestation.
Non, il n'y avait pas vraiment d'actes de résistance importants commis dans la région. Mais comme je vous dis, ça prêtait quand même un peu à partir. Parce qu'on ne sait pas pourquoi ces convois arrivaient. On pense qu'ils devaient être après réorientés vers la Normandie. Parce que certains disent qu'ils étaient peut-être prêts à défendre la Flèche, mais je pense pas. Parce que, bon, certes, la Flèche, c'était quand même un nœud routier. Mais, et les Allemands avaient installé quelques éléments de l'artillerie pour bloquer éventuellement l'avance des Alliés dans leur arrivée à la Flèche. Mais je pense que la Flèche n'était quand même pas une ville importante au point de la mettre en défense et de résister à la Flèche. En fait, ces troupes et ce matériel devaient sans doute repartir ensuite vers la Normandie.
Et là, ce que vous dites sur le reproche ou les reproches faits à ceux qui étaient du côté de la résistance, ça en dit long, d'autant plus que le contexte est celui que vous venez de décrire, c'est-à-dire que selon le plan d'exécution du sabotage, ces cheminots ont pris le soin de ne pas mettre en danger
la population. Mis à l'écart des habitations.
Donc on peut dire que ces reproches n'étaient pas vraiment fondés.
Alors les gens disent aussi que ce n'étaient pas des résistants. Bon, en fait, ils ont eu la médaille de la résistance, bien sûr. Mais au moins l'un d'entre eux, au moins Lucien Chartier, appartenait à la résistance. Alors André Mauguedier, je ne sais pas, je l'ai eu pourtant à la maison, mais il ne m'a pas dit clairement s'il faisait partie de la résistance avant.
Ça a existé, des gens qui étaient résistants, mais qui n'ont pas voulu le dire ?
Oh non, après la guerre, si, les gens qui étaient résistants l'ont dit. Par contre, ils sont toujours extrêmement timides sur ce qu'ils ont fait, effectivement. Ils disent qu'ils sont résistants. Il y a eu beaucoup de résistants aussi de la dernière heure, au moment de la libération, à la Flèche. Non, ils admettent qu'ils sont résistants, mais ils sont pas bavards sur ce qu'ils ont fait.
Michel Baudet, réaction par rapport à tout ce que nous raconte Daniel Potron sur la libération de la Flèche ?
Enfin, moi, je suis toujours ravie d'entendre Daniel parler, parce que moi, je ne suis pas fléchoise de naissance, je suis sabolienne. Et donc...
Personne n'est parfait.
Personne n'est parfait, voilà. Et donc, c'est vrai que moi, la Flèche est une ville que j'aime bien, que j'aime beaucoup, puisque je m'y suis installée et puis que j'y reste. Voilà, et je pense que j'y resterai longtemps. Enfin, j'espère. Et voilà, donc c'est vraiment agréable quand on aime un endroit d'apprendre son histoire. Bon, moi je suis moi-même un peu passionnée d'histoire, je lis beaucoup de livres d'histoire, d'écrits, voilà, je suis un peu comme Daniel, je collectionne les cartes postales, on est concurrents sur la collection de cartes postales, mais je lui arrive pas à la cheville, vu les quantités de...
Il est hors classe,
il est hors catégorie. Donc voilà, mais c'est vrai que pour... Les gens parlaient pas. Moi, de ma famille, j'ai fait l'expérience, par mon père, puisque bien sûr, il est mort à des suites de guerre, mais même mon grand-père, qui avait vécu les deux guerres, parlait pas. On n'arrivait pas à interroger les anciens, enfin, ils parlaient pas aux enfants. Alors après, peut-être que, entre adultes, voilà. Mais c'est vrai que quand on était enfant, on n'avait pas les réponses forcément. Ils étaient très évasifs. Ils parlaient pas franchement.
Préparez une question pour Daniel dans quelques minutes. Et moi, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Michel Baudet. Est-ce que pour recueillir ces témoignages-là, c'était évident ? Est-ce que vous avez dû forcer un peu leur nature pour qu'ils se livrent ?
Non. Je n'ai eu qu'une...
résistance.
Qu'une porte fermée, si on fait une résistance, d'accord. On peut dire. Oui. C'est une commerçante de la Grand Rue qui m'a dit, moi j'étais ni d'un côté ni de l'autre, et elle n'a pas voulu dire un seul mot. Je dis, mais vous avez vu l'arrivée des Américains, ils sont passés devant votre commerce. Non, elle n'avait rien vu. Elle n'avait pratiquement pas vu les Allemands. C'est la seule. Autrement, il y a des gens... Alors, pour les faire parler, j'en avais rassemblé plusieurs au Carroi. Et quand vous avez plusieurs personnes, ça parle beaucoup plus facilement, parce que l'un dit quelque chose, et l'autre ou bien contredit, ou bien complète. Et là, ça marche. Ouais. Mais non, j'ai pas eu de résistance. Ceci dit, je n'ai pas osé trop aller voir les familles des collabos notoires. Il en restait quelques-unes, il en restait quelques-uns, des descendants. Là, je n'ai pas osé aller. Quoi.
Il y a eu ça, la flèche des collabos ?
Oui, comme partout, oui.
Et donc, c'est-à-dire que vous avez quand même eu des contacts, certes pas appuyés, avec ces personnes-là pour savoir quoi, pour comprendre ce qui pouvait être leur motivation ?
Non, mais on peut le deviner selon les groupements auxquels ils appartenaient. Par contre, j'ai réussi à obtenir, j'ai la liste par mouvement de toutes les fléchois, de tous les fléchois et toutes les fléchoises qui y adhéraient. Je parle du PPF, du parti créé par Doriot, non, par un ex-socialiste, je parle du groupe Collaboration, je parle du RNP, Rassemblement National Populaire. Là, j'ai des listes.
Des listes. Tout,
oui.
Ah, et, tu les as eues comment, ces listes?
Ah ben ça, je dis pas.
Non, mais est-ce que c'était tes entretiens qui t'ont amené...
Je vais dire que je l'ai eu par quelqu'un qui, lui, avait accès aux archives. Parce qu'il y a quand même des gens qui avaient accès aux archives, notamment les gens qui faisaient partie de l'IHTP, de l'Institut, je ne vais pas retrouver, des études contemporaines, des études historiques contemporaines. Mais je n'ai pas utilisé les noms.
Non, mais ça, je comprends bien, oui.
Sauf un ou deux collaborateurs notoires, comme Charles Métayer, qui est le collaborateur qui a été le plus lourdement condamné. Il est mort en prison en 1948, d'ailleurs. Parce qu'il était quand même le responsable de la LVF, c'est-à-dire de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, et surtout le responsable de la milice. Parce qu'à La Flèche, il y a eu une section de la milice. Il n'y a que deux villes dans la Sarthe où il y a eu des sections de la milice, c'est Le Mans et La Flèche. Mais à La Flèche, ça s'est créé suffisamment tardivement pour qu'il n'ait pas eu le temps, les miliciens, de faire du mal, quoi.
Ils étaient là pourquoi, ces miliciens?
Bonne question,
Michel
Baudet.
Les miliciens ont collaboré avec les Allemands pour traquer les résistants.
D'accord. Ouais. Et les Juifs, toutes les populations qui étaient attaquées.
Toute la racaille judéo-marxiste, pour reprendre.
Oh là là. Ah oui, d'accord. Donc il y avait quand même
J'ai mis des guillemets, quand même.
Oui. Non,
mais on a bien entendu.
On a bien entendu les guillemets. Mais... Donc ça veut dire quand même que sur La Flèche, tu avais des gens qui étaient capables de faire.
Bah oui, c'est une ville quand même. Il y avait plus de 10 000 habitants. Oui, donc c'est normal qu'on trouve représentés les différents mouvements. Aussi bien du côté résistance que du côté collaboration.
Moi, j'aurais aimé comprendre leur motivation à ces collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils en espéraient, en fin de compte, en étant collaborateurs de ces troupes allemandes ou autres, de tous les méfaits qui étaient commis? Qu'est-ce qu'ils en espéraient, au final? Parce que je pense qu'ils n'étaient pas devenus collaborateurs comme ça, parce qu'ils avaient ça dans le sang. Ils avaient certainement pour moi, je pense qu'il y avait un motif.
Oui, le motif, c'est que l'ordre règne et que la France ait sa place dans l'Europe nouvelle qui devait être dirigée par l'Allemagne.
Tout simplement.
Parce que c'est ça, tout simplement.
Ouais.
Oui, Michel reste bouche bée.
Oui, parce que je pense que malgré tout, certains sont devenus collaborateurs un peu... Alors, ça n'est peut-être pas très beau ce que je vais dire, mais c'était pour sauver leur peau, pour espérer ne pas subir les affres, justement, après la libération. Mais bon, ça a été manqué, parce que ils ont été rattrapés par leur acte. Oui. Mais je pense qu'ils espéraient peut-être, si ça avait été inversé, sauver leur peau, quoi.
Ah bah oui. Oui, c'est sûr que si ça avait été inversé, ils auraient effectivement sauvé leur peau.
Et ça se trouverait. Ouais.
Nous, on refait l'histoire, si vous me passez l'expression d'Anel Potron, Michel Baudet. Mais est-ce que on peut aussi se mettre à la place de ces gens dont on parle, ceux qui, pour le coup, se sont retrouvés du bon côté de l'histoire, qui ont résisté, et les autres qui ont collaboré? Est-ce que ça, c'est... d'une évidence limpide de se dire, le ressort humain, il est tel que ce que je viens de décrire. D'un côté, il y a ceux qui vont naturellement vers ce penchant-là, résistant, et les autres collaboreront.
Non, je pense pas. Et d'ailleurs, on peut se demander, moi-même, je me pose la question, si j'avais été en âge de prendre d'avoir une option, de quel côté je serais allé? Je ne sais pas. Ah, honnêtement, je ne sais pas. Tu sais, un jeune qui a 17-18 ans, il peut s'engager aussi bien d'un côté que de l'autre. Hein. Ça dépend du milieu familial dans lequel il se trouve, de ses relations. C'est vrai qu'on ne peut pas...
Et puis de ce qu'on lui dit.
De ce qu'on lui dit, oui. Donc on ne peut pas jeter l'opprobre d'emblée comme ça sur les gens. Bon, après, on pas non plus les féliciter.
Non, on ne va pas leur donner une médaille.
Mais disons qu'il faut une certaine tolérance au départ pour essayer de comprendre pourquoi.
Oui, pour la compréhension. Pour essayer de voir l'état disponible. C'est vrai qu'un gamin de 16-17 ans, si on lui fait miroiter des choses, il est prêt à croire si la mariée est belle, quoi. Mais après, voilà.
Mais tu peux avoir des choses très diverses. Je connais quelqu'un qui... Non, je ne connais pas quelqu'un, mais je sais pourquoi, qui s'est engagé dans les Waffen-SS, qui est allé combattre en Russie, en URSS ouais. à l'époque. Mm-hmm. Ceci simplement pour un chagrin d'amour.
Ah. Oui.
Alors, je sais ça non pas par l'individu, il s'est fait tuer en Russie, mais par la femme qui l'avait largué.
D'accord.
Voilà. Ah, donc, ouais. C'est pour dire que c'est, ça peut
être
divers.
Oui, mais là, c'est suicidaire, là.
Bah oui, mais enfin, bon.
Il espérait peut-être que la femme en question le retienne.
Oh, je crois pas, là. Dans le cas présent, je vais pas dire qu'il y a cette femme.
Il y avait aucun risque.
Qui est décédée il y a pas très longtemps, d'ailleurs.
En plus, vous la connaissez.
Ah oui, bien sûr.
Bon. Ouais. C'est bien qu'on invite Daniel Potron à revenir dans ce studio Fléchois de Radio Prévert pour nous raconter la grande histoire finalement. Voilà. Ça tient aussi à ça, un chagrin d'amour.
Ah oui, oui, oui.
Et vous en avez d'autres comme ça ?
Non, mais on peut peut-être reprendre la suite de la libération.
Ah oui,
parce
oui,
que là,
oui,
on est...
oui, oui, c'est vrai qu'on digresse.
Là, on est qu'au niveau de l'attentat commis par les deux cheminots.
Daniel Potron, parlons maintenant du départ des Allemands.
Alors, dès le 7 août, comme les Fléchois, ils avaient vu que les Allemands étaient nerveux, ils s'étaient enfermés chez eux, les commerces étaient fermés, et c'est petit à petit, le 8 août au matin, qu'ils sont aperçus, parce que les Allemands sont partis essentiellement dans la nuit du 7 au 8 août, ils sont aperçus qu'il n'y avait plus d'Allemands, et ils ont commencé à sortir dans la rue à partir de, en gros, 16 heures. Et là, il s'est passé ce qui s'est passé dans toutes les villes. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par saccager tout ce qui rappelait la présence des Allemands, c'est-à-dire tous les poteaux indicateurs, tous les lieux qu'ils avaient fréquentés, comme le siège de la LVF, qui se trouvait deux grandes rues, comme le Soldatenheim, le foyer du soldat, qui se trouve là où il y a aujourd'hui les parfums Marionneau, donc dans la grande rue, comme la maison de Charles Métayer, que j'ai cité tout à l'heure, qui se trouvait boulevard d'Achus, etc. On peut en citer d'autres. Et il y a eu des saccages aussi au Britannée. Parce qu'en même temps, il y a eu des saccages. Il y avait l'arrestation de collabos ou de personnes suspectées de collaboration, parce qu'il y en a qui ont été arrêtés et c'était pas normal. Et puis... arrestation de femmes qui ont été tondues, soit accusées, généralement accusées de collaboration horizontale, donc d'avoir couché avec les Allemands, mais en fait un certain nombre avaient simplement hébergé des Allemands, et elles avaient hébergé, elles avaient couché avec, et souvent c'était pas par idéologie, c'était simplement pour avoir en compensation des produits alimentaires que les Allemands leur donnaient, ce qui leur permettait de faire vivre leur famille. Il faut pas jeter la pierre à toutes les femmes qui ont été tondues. Alors le nombre, je ne sais pas, au maximum quelques dizaines. On les tondait soit sur la place, essentiellement soit sur la place Henri IV, soit devant le commissariat de police. Alors à l'époque, le commissariat de police, c'est ce qui est aujourd'hui la salle de la bibliothèque municipale qui se trouve le plus près de la mairie. Vous voyez, ce bâtiment en briques rouges.
Ouais,
c'était là, ce commissariat de police. Donc, il y a eu toute la journée du 8 août. Il y a ça. Ça s'est arrêté parce qu'il y a eu un brusque orage sur la Flèche. Donc, les gens sont rentrés. Ils sont ressortis après, quand même. Jusqu'à vers minuit. Le 9 août, ça a continué, bien sûr. Et puis, on attendait toujours l'arrivée des Américains. Et les Américains, on ne les a pas vus. Ou on les a vus de façon qu'on ne voulait pas voir. C'est-à-dire que quelques avions alliés ont attaqué un avion de chasse allemand. Et après, ils sont allés bombarder la gare, où ils ont détruit le dépôt des autorails.
Nous sommes toujours avec Daniel Potron, historien local, et Michel Baudet, présidente du comité Fléchois du Souvenir Français, pour évoquer la libération de la Flèche il y a 80 ans. Alors, Daniel, maintenant, abordons l'arrivée des Américains.
Et les Américains, ils sont arrivés le 10 août, dans la matinée, vers 11 h. Alors, ils sont donc arrivés par le boulevard Latouche. Ils ont tourné devant le monument aux morts sur leur gauche. Ils sont donc arrivés face au portail du Prytanée. Là, ils ont tourné à droite et sont retrouvés sur la place Thiers. Et place Thiers, ils ont été entourés tout de suite par la foule. On a d'excellentes photos qui ont été faites par un employé du Prytanée, Guy Delcaire. Deux belles photos des Américains sur la place Thiers. C'est les toutes premières photos. Et après, la foule les a envoyés vers la place de la Libération par la Grande Rue. Et là, on a aussi quelques photos très intéressantes des véhicules qui passent Grande Rue. Alors, les véhicules, ils n'étaient pas nombreux, hein, les Américains. Là, c'était une automitrailleuse et trois jeeps. Et il y a des belles photos qui ont été faites, ce qui nous permet de savoir quelle est l'unité qui a libéré la Flèche.
C'est laquelle ?
Ah, c'est le 43... Alors là, technique, c'est le 43e escadron de reconnaissance motorisée qui faisait partie du 3e groupe de cavalerie qui faisait partie du 20e corps de la 3e armée.
Tout ça de tête.
Oui, alors tout ça est obtenu en lisant l'immatriculation sur les jeeps. Et donc là, ils sont arrivés place Henri IV. Et là, le place Henri IV, le bouche à oreille ou le téléphone arabe, comme vous voulez, avait fonctionné parce qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient rassemblés sur la place, qui a acclamé les Américains. Et le moment le plus émouvant, c'est que l'officier américain qui commandait ce petit détachement, il a hissé le drapeau tricolore, mais pas seulement, attaché avec un drapeau anglais et un drapeau américain, il faisait trois drapeaux, qu'il a hissé au mât qui se trouvait devant le portail du Prytanée. C'est un mât qui avait été installé par les Allemands et sur lequel avait flotté pendant les 4 ans d'occupation le drapeau nazi. Alors là, les gens ont entamé la Marseillaise. C'était le moment le plus émouvant. Alors, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de drapeau russe. Hein ?
Vous l'avez dit. On n'y était pas, mais on vous croit.
Il n'y avait pas de drapeau russe. Alors là, j'ai demandé après à Jean Lieferman, qui a été sous-préfet de la Libération, et que j'ai eu comme collègue au Prytanée après. Je lui ai dit, mais pourquoi il n'y avait pas de drapeau russe ? Il m'a dit, on n'en a pas trouvé.
Tout simplement. Alors,
ils n'en avaient pas en stock.
Ils n'avaient pas en stock. Alors après, c'est ce qu'il m'a dit. Hein.
Ouais. On a pris plaisir à entendre l'évocation de la Libération de la Flèche 80 ans après, grâce à vous, Daniel Potron, Michel Baudet.
Et après, ils ont pris quelle route ?
Après, les Américains,
oui.
Ils filaient vers le Mans. Hein.
Vers le Mans,
ils passaient tous. À l'époque, il n'y avait pas de déviation. Donc, l'axe de la Flèche, pour traverser la Flèche, parce qu'ils venaient tous soit de la direction d'Angers, soit de la direction de Laval. Et donc, ils traversaient la ville par la rue Saint-Jacques, la rue Carnot, la Grande Rue, la rue de la Tour d'Auvergne.
D'accord.
D'ailleurs, j'ai beaucoup de photos qui ont été prises au niveau de la Grande Rue. Parce que là, on voyait arriver les Américains, on les voyait repartir. Et ça a défilé pendant plusieurs jours, impressionnant les Fléchois qui n'en revenaient pas.
De voir passer tous les camions,
ce déferlement de mécanique. Quoi.
Ouais. D'accord.
Oui, j'ai encore un mot, je vais le dire là, cette fois. Le prochain cahier Fléchois. Profitez pour l'occasion.
T'as raison.
Le prochain cahier Fléchois sera consacré à la Flèche, c'est un cahier spécial, consacré à la Flèche pendant la période 39-45. Alors il y aura deux parties. La première partie, c'est l'action de la Feldgendarmerie, c'est-à-dire de la gendarmerie militaire allemande pendant les guerres, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, entre août 43 et juillet 44. Parce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être, Grégoire Béraud, non, ça ne vous dit rien, qui a pu récupérer ses archives. Ça fait 2000 documents, à peu près, qui sont écrits en allemand, bien sûr. Donc, j'ai analysé ces 2000 documents, grâce à ma fille, parce que moi, l'allemand, je l'ai appris à l'école, mais il y a longtemps que je ne suis plus à l'école. Donc, ce sera la première partie du cahier Fléchois. Et la deuxième partie, ce sera 180 photos de la période 39-45 à la Flèche, avec commentaires pour chaque photo, bien sûr.
Les Fléchois étaient bouche bée par rapport au déferlement de la mécanique américaine.
Je pense que oui, effectivement, ça devait être impressionnant. Parce que d'abord, parce que peut-être que l'armée française n'était pas équipée aussi bien. Ne voyait pas. Ils n'avaient pas l'habitude. Et puis, les Allemands non plus n'avaient pas le même équipement.
Ils étaient déjà pas mal équipés.
Mais je pense que pour eux, c'était tout nouveau. C'était. Et puis, c'était les libérateurs et ils étaient espérés, attendus.
Et nous, nous étions bouche bée devant votre
récit. Ah oui, comme d'habitude.
Récit.
Oh non.
C'était la boucle.
Non, non, parce que la, la radio n'est pas mon moyen de
communication,
de communication préféré.
Mais,
je suis beaucoup plus à l'aise avec une plume
mais,
et une feuille de papier, ou un ordinateur plutôt.
Mais c'était très clair, donc il va falloir qu'on renouvelle l'exercice.
Ouais, mais tu racontes ça, c'est très fluide, et en fin de compte, de savoir que voilà, tu fais tout ça de mémoire, c'est vraiment que ta passion, t'as tout.
Notes.
Voilà, et c'est.
Il n'y a pas de notes.
Voilà,
c'est... Ouais, on va prendre une photo pour que les auditeurs s'en rendent compte.
Des notes, j'utilise jamais. Enfin, je les utilise avant, bien sûr.
Et puis après, ça reste là, ça imprimé. Reste là.
Mais ceci dit, j'aurais encore un mot à dire, c'est que la libération, c'est quand même pas passé calmement à la flèche. Il y a quand même eu des drames. Il y a eu un professeur adjoint du Prytanée, Paul Fabre, qui a été tué dans le combat de Thorée. Mmh. Et puis, il y a deux Fléchois, Robert Neveu et Paul Raymond, qui ont été emmenés par les Allemands et fusillés sur les bords de la rivière à Blois. Et puis il y avait eu dans le massacre du chemin des belles ouvrières. Mais ça mériterait tout un récit.
Oui, parce que moi j'ai ma voisine qui, ses grands-parents avaient une ferme par là. Et donc elle m'en a parlé, ses grands-parents lui ont raconté
le
l'histoire.
Le massacre du chemin des belles ouvrières. Oui. Ah ben ça j'ai reconstitué, hein. Ça parfaitement. Il y avait un groupe allemand, qu'on prenait des camions et des chars Panhard même, qui se sont dirigés vers Le Mans. Arrivés à la Belle Étoile, sur la route, ils se sont fait allumer par les troupes françaises. Donc, ils ont fait demi-tour et ils voulaient prendre la route, ils voulaient dans Clermont-Créant, prendre la route sur la gauche pour aller vers Mareille, etc. Et ils auraient pu repartir vers l'Est. Et ils se sont trompés, ils sont allés trop loin. Ils sont allés jusqu'au chemin des Belles Ouvrières, qui est entre le Clermont et la Flèche. Et là, ils ont été obligés de faire demi-tour. Et les trois pauvres personnes qui sont passées là, c'est-à-dire Henri David, Henri Ilbé, et puis, je suis en train de chercher le nom du troisième, Didier Guéraud, qui ont eu le malheur de se trouver là au mauvais moment, alors que les Allemands étaient furieux parce qu'ils s'étaient trompés. Et ils ont tiré dessus, pour rien.
Pour rien. Oui, c'est ce que...
C'est une résistance, c'est des malheureux qui... Ils n'étaient pas là au bon moment, quoi.
Je pense que, de toute façon, c'était la panique pour eux. Et effectivement, ils avaient tendance, quand ils étaient énervés, peut-être à tirer inopinément, on va dire, sur les gens.
Je ne sais pas ce que vous dites de la proposition que je vais faire, Madame Baudet.
Voilà.
Ce serait bien qu'on retrouve Monsieur Potron, puisque la page qui s'ouvre, justement, après les soubresauts, départ des Allemands, le contexte résistant par résistant, et puis l'après-guerre aussi, libération, c'est tout un processus. Est-ce que ce ne serait pas bien de l'entendre là-dessus? Je suis sûr qu'il a encore... Plein de choses.
Moi, je serais ravi s'il accepte de venir.
Que ce soit sur l'immédiate après-guerre.
L'immédiate après-guerre.
C'est-à-dire la gestion de la paix retrouvée ou du calme retrouvé. Enfin, de la paix pour les Fléchois, parce que la guerre n'était pas finie.
Hein. C'est quelque chose qui peut être très intéressant, effectivement, parce que là, moi, j'ai eu l'occasion cette année de faire la correction et d'assister à la remise des prix du concours de la résistance et de la déportation. Dont le sujet cette année était vraiment la résistance, la déportation et autres. Et l'année prochaine, le thème du concours, c'est justement la reconstruction de la France, les suites de l'après-guerre. Et ça peut être très intéressant parce que c'est un concours sur le volontariat, hein, bien sûr, des élèves. Mais je pense que c'est effectivement quelque chose qui peut, ça peut être la suite, une suite logique. La reconstruction de la flèche.
C'est la suite logique, oui.
Voilà.
Daniel Potron, les cahiers fléchois sortent quand?
Ils sortent, ça dépend des années, c'est fin mars, début avril.
Oh, on a le temps.
Oui, ah oui, oui.
On a le temps. Et d'ici là, justement, vous reviendrez nous parler de la gestion de la paix ou alors, comme vous disiez, du calme retrouvé, donc l'immédiate après-guerre.
Ouais.
On fait ça?
D'accord.
Daniel Potron, historien local, merci à vous. Merci également à Michel Baudet.
Merci à vous.
Présidente du Souvenir français, comité fléchois.
Ah oui.
Et vous serez encore une fois avec nous sur Radio Prévert pour avoir le privilège de recevoir un invité qui est déjà arrivé, mais on n'en dit pas grand-chose pour l'instant. On réserve la surprise pour nos auditeurs et remercie vivement Daniel Potron.
Oui, un grand merci.
Un grand merci, infiniment merci à Daniel Potron, qu'on retrouvera sur Radio Prévert pour évoquer encore une page d'histoire locale.
Pas de problème.
Merci, d'accord, Daniel Potron.